Bonjour à chacun, bienvenue à l'église évangélique de Mérin. Que vous soyez nouveau, que vous soyez de passage, habitué à nos lieux, ou que vous soyez en streaming, eh bien que vous soyez accueillis par Dieu ici dans sa maison. Bienvenue à chacun. Pour ce culte d'installation, nous avons aussi l'occasion de saluer certaines présences qui sont importantes à nos yeux, dans notre réseau, dans notre intégration ici à Mérin. Nous saluons la présence du président du conseil municipal, de la paroisse protestante de Mérin, et puis aussi de l'église de l'Espérance à Lancy, qui fait partie de notre pastoral frais. Nous excusons le réseau évangélique qui n'a pas pu être présent, le réseau évangélique de Genève, ainsi que notre fédération romande d'églises évangéliques, la FRAE, et l'église de Colonie, qui fait aussi partie de cette pastorale de la FRAE. Qu'est-ce qu'un culte d'installation? C'est toujours étrange de parler de culte d'installation, sur ce qu'est une installation de Thierry et de Rebecca Terra. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, c'est avant tout un culte à Dieu. Une reconnaissance que nous proclamons chaque semaine, mais c'est aussi affirmer, confirmer un rôle que nous leur avons donné et engagé il y a un peu plus d'une année dans notre Église. C'est aussi confirmer la relation de notre Église avec eux. Et c'est aussi de demander la bénédiction de Dieu sur leur travail, pour le bien de notre Église. Alors ce matin, comment ça va se passer? Nous aurons un temps de louange, de chant, un temps de Sainte-Cène, un temps de prédication d'un message basé sur la parole de Dieu, et un temps de bénédiction pour Thierry et Rebecca. Alors, vous l'aurez remarqué, les enfants, contrairement d'habitude, ne sont pas là devant, mais ils reviendront justement vers la fin, dans ce temps de bénédiction, pour que l'Église, des plus jeunes aux moins jeunes, soit présente pour ce moment. Vous avez aussi remarqué que les jeunes du caté sont à votre service aujourd'hui. Il y en a deux qui sont au fond, qui s'occupent de la sono et de la projection, certains qui ont fait l'accueil, le café, et puis après, le culte, le moment d'apéro. Maintenant, je vous invite à entrer dans un moment de culte. Prenons le temps de déposer nos soucis de notre vie pour prendre le temps d'entrer dans ce temps où nous allons chanter, où nous allons écouter. C'est Jésus qui nous invite à entrer dans sa paix, dans son repos, comme il est dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est un ami pour nous. Il était jusqu'à donner sa vie pour nous offrir le salut de notre âme, et il n'y a pas plus grand amour que celui-ci. C'est ainsi qu'il est dit dans Jean 15, verset 13, aimons-nous donc les uns les autres comme Christ nous a aimés. J'invite le groupe Louange à venir sur scène et puis à chanter ces chants de louange à notre Dieu.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir louer ensemble notre Seigneur. Je voulais dire la même chose que Joanne vient de dire. Dans Jean 15, donc Jésus parle à ses disciples en disant qu'il est la vraie vigne et qu'il faut qu'il reste attaché à lui et à sa parole pour donner de bons fruits. Dans le verset 12, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Même si c'est par moments difficile de prendre du temps pour soigner notre amitié avec Jésus, nous savons qu'il est fidèle et qu'il sera toujours là pour nous, surtout dans les moments difficiles. Chantons « Quel ami fidèle et tendre ». son du moment où il viendra nous chercher. Et comme il est dit dans le prochain chant, entends-tu, écoute, car il est bientôt l'heure. Il t'attend à l'oreille de ton âme, il te tend les bras, il te réclame. Dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Mon secours est en toi.
Nous avons chanté l'amour cloué à la croix. Nous avons chanté le secours est en toi. C'est Jésus, l'amour suprême. C'est Jésus qui nous secourt, qui nous offre la liberté, le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous vous invitons à entrer dans un temps de sainte cène. Qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un repas, un mémorial pour nous souvenir, semaine après semaine, car on oublie facilement ce que Jésus a fait pour nous. Mais un mémorial qui porte un sens pour nous, pour Dieu, et comme témoignage autour de nous et entre nous. Car la scène, c'est le souvenir du sacrifice de Christ, la proclamation de la mort du Seigneur Jésus, mais aussi le signe d'une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes qui nous offre sa grâce. C'est aussi l'annonce qu'un jour nous serons avec lui dans le royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et d'amour. Mais c'est aussi la manifestation de notre communion entre croyants. Aujourd'hui, à travers le monde, tous les chrétiens se réunissent là où ils peuvent et partagent ce moment de communion. Ce n'est pas nous qui nous unissons, mais c'est bien Jésus qui nous unit. Lisons l'institution de la scène dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous te remercions, cher Seigneur, pour la beauté, la richesse, la simplicité de ce geste. Nous savons ce qu'il t'en a coûté. Nous y voyons le cœur de Dieu qui veut se réconcilier avec nous, qui veut déployer sa grâce, sa paix. Nous goûtons le privilège de pouvoir prendre ce repas ensemble en signe de communion, les uns avec les autres et avec toi. Et nous pensons à tous ces lieux, auprès comme au loin, où la paix vient à manquer, où elle ferait tellement de bien. Te prions de la déployer et de susciter, comme tu l'as déjà fait jusqu'à aujourd'hui, des femmes et des hommes de paix qui cherchent la réconciliation. Aide-nous à en être, Seigneur, chacun pour notre part, et fais-nous la grâce de goûter combien le Seigneur est bon et combien il fait bon marcher dans sa lumière. Sois-nous en aide et réjouis-nous au cours de ce repas. Dans le nom de Jésus. Amen.
Si quelques personnes du conseil viennent nous aider, merci.
Luc 4, verset 18, Jésus dit que le Saint-Esprit est en lui pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il s'identifie à ceux qui souffrent, prend leur cause, guérit les malades, les aveugles, les sourds, les boiteux, il libère les prisonniers. En Jésus, Dieu se fait proche de ceux que le monde ignore ou rejette. Chantons Dieu des pauvres.
La consécration, elle vaut ce matin pour mes amis Thierry et Rebecca, mais à entendre les paroles du chant que nous venons de chanter, à nouveau, mon cœur se donne à ton amour. La consécration, elle vaut pour nous aussi. En préambule, chers Thierry et Rebecca, j'aimerais dire d'abord à quel point j'apprécie notre collaboration. Elle a été préparée de façon assez évidente, me semble-t-il, par celui que nous aimons et que nous servons, notre Dieu. J'apprécie vos dons, j'apprécie votre créativité. Vous devriez voir Rebecca en action dans les deux pièces que nous partageons en bas. Quelle inventivité ! J'ai même des plantes vertes depuis quelques semaines. J'apprécie votre cœur. J'apprécie votre humour. Nous ne nous connaissions pas tant alors que vous preniez vos fonctions assez officiellement finalement au printemps 2024. Nous sommes différents à tant d'égards. Nos parcours réciproques nous ont, je crois, enrichis, assouplis, ouverts. Nous sommes complémentaires et je tiens à dire devant cette assemblée ce matin à quel point c'est un vrai bonheur de collaborer avec vous deux. Vous êtes doués, vous faites du bien, vous me faites du bien. J'apprécie nos temps d'échange, de concertation, de travail, de service en commun. C'est facile et bienfaisant de travailler avec vous. Comme si tout avait été préparé. Dans quelques semaines, vous découvrirez, je crois, des vidéos que nous avons tournées avec Thierry. Enfin, c'est surtout Thierry qui a tourné. Quand je suis arrivé, à la minute près, en fait, il a même dû m'attendre, c'était prêt. C'était fait. C'est facile de collaborer avec vous. Et vous enrichissez par vos talents et pour vos qualités multiples le peuple de Dieu dans son entier, à commencer par l'Assemblée de Mérin. Je me réjouis donc de découvrir ce que le Seigneur tient encore en réserve pour vous et pour nous ensemble. Un certain nombre d'orateurs savent émouvoir leur auditoire. Martin Luther King, par exemple. Ça n'a rien à voir avec leur caractère, parfois ça n'a même rien à voir avec leurs idées, mais voilà, c'est des gens comme ça, tac, ils savent comment toucher les gens, comment les mobiliser, comment les faire se lever. L'apôtre Paul laisse entendre quelque part que lui ne savait pas bien parler. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Puis en même temps, nous avons à quelque part le compte-rendu de l'un de ses discours qui a laissé le public en larmes, en discours plein d'émotions. Pas parce que Paul aurait su manipuler les foules. Pas parce qu'il maîtrisait la magie des mots. Mais parce que c'était un discours d'adieu, très incarné. Quelle drôle d'idée de vouloir évoquer un discours d'adieu pour un culte d'installation. Il débloque le pasteur. Ben, on est très loin des adieux, enfin du moins je l'espère. Mais au-delà des mots, je vous propose que ce discours de Paul implique une vie qui parle. On va le lire tout à l'heure, on va écouter la lecture que Séverine nous en fera tout à l'heure. Un discours qui implique une vie qui parle. Et Thierry et Rebecca, à l'aube d'un ministère nouveau finalement, dans lequel vous êtes, un ministère que je vous souhaite fructueux, heureux, je forme la prière que vous ayez parmi nous, au milieu de nous, une vie qui parle. Je sais que beaucoup de chrétiens, de chrétiennes ont des complexes, commencez par moi, quand ils se comparent à l'apôtre Paul. Il a fait tant de choses, il a osé tant de choses, il a enduré tant de choses, il a écrit des trucs tellement forts. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à sa cheville. Pourtant, quand il dit dans l'une de ses lettres « Soyez mes imitateurs, mes imitatrices », nous reconnaissons à la fois qu'il a le droit de le dire et que la barre est très haut. Il a le droit de le dire, puis en même temps, est-ce qu'on y arrivera ? C'est curieux, hein ? Mais la vie de Jésus ne nous fait pas le même effet. Donc, je vais compléter la citation de l'apôtre Paul. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». 1 Corinthiens 11, verset 1. Parce que le grand Paul, lui aussi, il regardait plus loin, plus haut. Et il nous invite à suivre cet exemple, pas juste le sien, mais surtout, avant tout, par-dessous tout, l'exemple du Christ. Alors il empêche que l'apôtre Paul avait reçu un charisme, un appel particulier pour édifier l'Église et nous autres avec. J'aimerais donc que nous écoutions l'un de ses discours, ou une partie d'un de ses discours. C'est un discours qui est prononcé à un moment qui marque une transition importante. C'est important les transitions dans la vie. Il ne faut pas les mépriser, les transitions. C'est important. Et là, on est dans une transition importante et c'est un discours chargé d'émotions. Il l'adresse aux responsables d'une église qui se trouve à Éphèse. Alors bien sûr, l'église de Mérin, c'est pas l'église d'Éphèse. Et bien sûr, Thierry et Rebecca ne sont pas l'apôtre Paul. Mais j'aimerais choisir trois versets que nos amis et nous avec pourraient reprendre à leur compte aujourd'hui. Mais d'abord, la lecture du passage en acte 20, les versets 16 à 38.
Paul, en effet, avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecôte. Paul envoya un message de Milète à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur parla en ces termes. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné, en public et dans vos maisons. J'ai appelé les Juifs et les gens de des autres peuples à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je me rends à Jérusalem, comme l'Esprit Saint m'oblige à le faire, et j'ignore ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, l'Esprit Saint m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai passé parmi vous tous en annonçant le règne de Dieu, mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin. Si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé sans rien vous en cacher. prenez garde à vous-même et veillez sur tout le troupeau que l'Esprit-Saint a remis à votre garde. Soyez de bons bergers pour l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Je sais qu'après mon départ, des individus pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des gens diront des mensonges pour entraîner ainsi les disciples à leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que, pendant 3 ans, jour et nuit, je n'ai pas cessé, avec des larmes, de mettre en garde chacun de vous. Et maintenant, je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de vous fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de qui que ce soit. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire pour ceux qui m'accompagnaient et pour moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux personnes faibles, en nous souvenant de ce que le Seigneur Jésus a lui-même dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après ces mots, Paul se mit à genoux avec eux et pria. Tous pleuraient et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ils étaient surtout attristés parce que Paul avait dit qu'il ne le reverrait plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.
Merci. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Tellement de choses, on pourrait en parler des heures de ce discours. Je retiens 3 phrases. La première. Vous savez comment je me suis toujours comporté au milieu de vous. Il sera assez facile de noter toutes les différences entre la scène que nous venons de lire et ce que nous vivons nous tout simplement ce matin. Mais voici une phrase au verset 18 que Thierry et Rebecca peuvent prendre à leur compte ce matin. Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous depuis le jour de mon arrivée dans cette province d'Asie. Ou, dans une version actualisée, vous savez comment nous nous sommes comportés pendant tout le temps que nous avons déjà passé parmi vous depuis le jour de notre arrivée à Mérin, 2015, merci. Vous savez. La vie d'un assistant pastoral, la vie d'une pasteur enfance et jeunesse, c'est une vie publique. Vous savez. Thierry et Rebecca, ils ont déjà vécu pendant plusieurs années au milieu de nous, 10 ans. Et je nous souhaite de les garder très longtemps avec nous. Vous pourrez donc les contempler sous toutes les coutures. Vous allez connaître, ou vous connaissez déjà, leur goût, leur tic, leur qualité, leur point perfectible. Vous pourrez comparer ce qui est dit depuis le haut de la chair ou avec le caté et ce qui se fait en semaine. Aucun de vous ici ne sera jamais autant passé à la loupe que le seront Thierry et Rebecca. C'est redoutable. Quand l'apôtre Paul rappelle donc ce qu'a été son action, il le fait avec une bonne conscience. Il souligne son enseignement sans rien vous dissimuler. Je vous ai annoncé tout ce qui était utile. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et au chapitre du désintéressement, il cite son esprit de service, ses épreuves, ses larmes, son travail pratique, concret. Et pour ma part, je peux témoigner de ce que j'ai vu de la vie de Thierry et Rebecca depuis bientôt 2 ans que l'on travaille ensemble et déjà avant. Leur attachement à Dieu et à sa parole, leur souci de lui être fidèle, leur désir d'incarner l'évangile, la bonne nouvelle, leur esprit de service, leur droiture, leur consécration, leurs saines ambitions, leur bon sens. J'ai été frappé par l'amour évident que Thierry et Rebecca portent au peuple de Dieu, aux églises comme aux personnes, sous nos cieux comme beaucoup plus loin. Et j'espère que vous avez pu entrevoir aussi le même genre de choses chez eux. Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Un deuxième verset. Verset 22. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Me voici en route. Tout chrétien, toute chrétienne devrait pouvoir en dire autant, parce que nous sommes des gens en route, pas arrivés, en route. Et nous savons que l'avenir ne nous appartient pas. Comme Paul, qui connaissait la prochaine étape, mais pas tous les détails et pas les étapes d'après, juste quelques éléments. Paul va jusqu'à dire que l'Esprit l'oblige d'aller à Jérusalem. Il est comme lié par l'Esprit, dit-il. Les contraintes imposées par le Saint-Esprit peuvent être de plusieurs ordres. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter ce matin. Mais dans le cas présent, ce qui motivait l'apôtre, c'était la nécessité de renforcer les liens entre les églises de Judée et les nouvelles églises de langue grecque comme Éphèse ou Corinthe. Lier le tout, lier les gens, lier les églises. Et quelques semaines plus tard, ses amis lui diront de ne pas aller à Jérusalem, mais plutôt d'y envoyer ses compagnons avec quelques dons qu'ils avaient récoltés. Paul reconnaîtra la justesse de leurs avertissements. On aura l'occasion dans quelques semaines de méditer cet épisode. Il dira, vous avez raison, mais il ira quand même, lié par l'Esprit, contraint. Les contraintes imposées par le Saint-Esprit peuvent être de plusieurs ordres et il faut vraiment faire attention dans notre interprétation là autour. Comment interpréter les impératifs du calendrier quand on marche avec Dieu ? Est-ce qu'il faut tenir compte des impératifs du calendrier ? Est-ce qu'il faut se croire immortel, indispensable ? Est-ce que forcément c'était toujours mieux avant ? Sûrement pas. Il faut reconnaître que la marche imperceptible du temps amène inexorablement à des changements que nous avons besoin d'embrasser avec lucidité et courage. Me voici en route. Il faut en tenir compte de la route pour se renouveler, pour ne pas se laisser enfermer, engluer. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous, n'est-ce pas ? Après avoir entendu pendant des années, un chrétien, une chrétienne décide finalement de se faire enfin baptiser. Après 10 ans dans une entreprise, on a peut-être le sentiment d'être arrivé à un plafond, puis on décide de faire tout autre chose. Un jour, on se rend compte qu'on devra s'occuper d'un parent âgé et revoir son emploi du temps et peut-être son emploi tout court. La maladie vous oblige à réduire votre train d'activité. Il faut interpréter les changements que la vie nous impose, mais il ne faut pas en avoir peur, car les différents temps de la vie sont tous entre les mains de Dieu. Ça, l'Ecclésiaste nous le dit avec force. Et les actions que nous menons sont autant d'œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Éphésiens 2:10. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Et en fait, Thierry et Rebecca ne savent pas trop ce qui les attend. Ils ne savent pas trop ce qu'attendent leurs enfants. Ça compte, les enfants, hein, dans une vie. Surtout quand il y en a plus. Enfin, même. Mais là, ça compte, quoi. Ça compte, les enfants. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Moi, je vous souhaite des années douces, mais. Vous ne savez pas ce qui vous attend au milieu de nous. Et l'église de Mérin peut légitimement nourrir des questions devant ce que l'avenir lui réserve. Dans notre texte, à prime abord, le pronostic de l'apôtre pour l'église d'Éphèse était sombre. Des loups féroces vont venir qui n'épargneront pas le troupeau. Dans le corps de l'église, il y aura des trahisons, des divisions, dit-il. Puis quand on y regarde d'un petit peu plus près, il y a de l'espoir. Parce que cette église, il dit que Dieu se l'est acquise par son propre sang. Ses responsables, c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Ils ont été instruits dans tout le conseil de Dieu. Ils en connaissent, ils en ont sous le pied. Autrement dit, ça va tanguer, mais le bateau ne va pas sombrer. Et nous non plus, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Parce que la vie a un côté imprévisible et pagailleux. Devant ces incertitudes, Dieu veut qu'on mette un point d'honneur à vivre à son honneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. Nous sommes tous et toutes en route. Le réalisme d'acte 20 nous conduit au troisième et dernier verset que j'ai sélectionné. Verset 32. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux, à toutes celles qui lui appartiennent. J'ai gardé le plus beau pour la fin. Je vous confie à Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul a pu dire à ses anciens de l'église d'Éphèse qu'il aimait tant. Je vous confie à Dieu. Je m'en vais. Vous ne me verrez plus, je ne pourrai plus intervenir, sauf par une petite lettre de temps en temps. Vous vous sentirez peut-être un peu orphelin, mais Dieu sera avec vous. Je vous confie à Dieu, vous allez rester entre de bonnes mains. Et j'espère que les responsables d'Éphèse ont dit la même chose à Paul. Nous te confions à Dieu, tu seras entre de bonnes mains. Voilà de quoi nous encourager. Si nous nous sentons petits devant le grand apôtre. Voilà de quoi nous rassurer si nous pensons que les incertitudes de la vie sont trop nombreuses pour nous. Voilà de quoi nous réjouir si la perspective d'épreuves à venir nous effraie. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Je vous confie à Dieu. Je vous confie à Dieu. Et à la parole de sa grâce, la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu. Souvent, on a tendance, dans la tradition chrétienne, à voir un Dieu extrêmement exigeant. Il faut marcher droit, les gars, sérieux. Si vous n'allez marcher pas droit, je vais vous péter les jambes, je vais vous arracher les ailes. Et je sais qu'on a parfois cette description de Dieu, je l'entends, je la lis. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est une fausse image de Dieu. Elle est hérétique. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de relèvement, de restauration, de nouveau départ, de patience, de bonté, d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Et aucun mais n'y survivra. Je les entends, les mais. Dieu est un Dieu de grâce, oui, mais quand même, on doit faire notre part. Dieu est un Dieu de grâce, oui, mais quand même, il y a des gens, il ne les sent pas trop. Dieu est un Dieu de grâce, point barre. Il n'y a jamais de mais dans les Écritures à ce sujet. Et notre privilège, Thierry et Rebecca, notre privilège, amis du conseil, notre privilège en tant qu'Église, c'est de pouvoir le dire et le proclamer. Sans jamais nous en départir.
et en luttant même, j'aurais tendance à dire, contre ceux qui veulent ajouter des mais et des points-virgules et des citations de droite et de gauche. Dieu est un Dieu de grâce. Et cette grâce, elle va s'adresser à celles et ceux qui sont au bout du rouleau et qui ont besoin de restauration, des gens comme vous et moi. Dieu est un Dieu de grâce. Et c'est celui que nous servons. Thierry et Rebecca, est-ce que vous pouvez le dire et le vivre pour l'église de Mérin? Nous vous confions à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Bien sûr que vous n'êtes pas en train de vivre une étape aussi tranchée que l'apôtre et l'église d'Éphèse, bien sûr. Mais comme Paul, à la fin de son ministère, vous pouvez dire au début du vôtre, d'emblée, que vous lâchez prise. D'emblée, vous lâchez prise. Vous n'avez pas les mains sur les manettes. Mais vous savez qui maîtrise la situation. Vous savez. Vous pouvez regarder vers l'avenir et porter ensemble la charge de l'Église en sachant que Dieu est aux commandes. Bien sûr que vous serez là pour donner des impulsions, pour servir dans la mesure de vos forces, vous bouillonnez d'idées et d'envie, comme tout le monde. Vous allez prier pour l'Église comme vous l'avez toujours fait. Vous allez donner le meilleur de vous-même comme vous l'avez toujours fait. Mais la réussite, la pérennité, le développement de notre Église ne dépend pas de vous. D'accord ? Donc l'heure est venue de dire, Église de Mérin, nous vous confions à Dieu et à la parole de sa grâce. Et vous, chers amis de l'Église de Mérin, vous que je commence à bien connaître, est-ce que vous pouvez dire la même chose pour Thierry et Rebecca ? Thierry et Rebecca, nous vous confions à Dieu et à la parole de sa grâce. Que vous les voyez souvent, ou alors si d'autres font appel à eux, est-ce que vous accepterez de les laisser partir? Si l'épreuve ou la surcharge les guette, vous allez prier pour eux, vous allez les décharger, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accueillir des gens qu'on aime, il s'agit de les aimer encore au cours des mois et des années qui viennent. Vous savez comment je me suis comporté parmi vous. Me voici en route. Nous vous confions à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen.
Thank you.
Alors on accueille les enfants. Merci les enfants. Merci d'être parmi nous. C'est un moment important. C'était bien en bas? Oui. Donc Rebecca fait du bon travail alors. Je pense que tu peux redescendre, tu reviendras après. Voilà Thierry, Rebecca. Après un peu plus d'une année et demie, c'est un peu long comme temps d'essai. Contractuellement, c'est 3 mois. Ça, c'est le côté administratif. Une église, c'est différent. Et comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure, vous avez un service qui est visible, qui s'expose. Vous le faites en toute discrétion. Mais comme... il est dit dans Jacques, une foi sans les œuvres, elle est morte. Vos œuvres depuis une année et demie démontrent de votre foi, de votre attachement à l'Église. Et ce moment, il est important aussi de pouvoir marquer ce moment où nous vous confions à Dieu pour ce ministère. C'est vrai que ces postes que vous avez, donc assistant pastoral pour Thierry, responsable jeunesse pour Rebecca, c'est un peu du sur-mesure. C'est quelque chose en conseil. Nous avons dû discerner qu'est-ce qu'il nous fallait pour notre Église. Et Dieu nous a été en aide. De trouver des ressources en interne, puisque ça fait maintenant 10 ans que vous êtes ici. Et puis de savoir aussi comment est-ce qu'on allait définir ces postes, le pourcentage, comment est-ce que vous alliez pouvoir travailler et quel était le cahier des charges. Et c'est un vrai travail en commun que nous avons pu faire et que nous avons eu plaisir à pouvoir mettre en œuvre. C'est assez rare de faire ça, de pouvoir choisir un petit peu comment est-ce qu'on veut travailler dans un poste. Mais c'est un travail qui a été fait dans la paix, et dans le discernement de ce qu'il fallait pour notre Église. Donc les enfants, c'est vous aussi qui participez à ce moment, et vous voyez aussi le travail de ce qui a été fait depuis une année et demie, notamment au niveau des groupes d'enfants. Vous avez vu qu'il y a des tableaux maintenant, où c'est affiché exactement qui est le moniteur, comment ça va se passer, quel est le thème. Tout ça, c'est organisé. Et c'est clair et c'est précis. Donc on va avoir ce temps de consécration qui passe par un engagement de l'Église, un moment de prière. Et puis après, un petit moment où on va connaître un petit peu plus Thierry et Rebecca, et les enfants, vous pourriez participer.
Et puis les membres du conseil qui sont présents, présentes ce matin également. Et nous avons pensé le faire en 2 étapes. Une première étape avec un engagement d'église, où, merci, il y a aussi Francine qui est membre du GEAP. Le GEAP, c'est le groupe d'évaluation et d'accompagnement des pasteurs. C'est notre groupe employeur qui nous accompagne et fort bien. Merci d'être là aussi. Donc on va faire cet engagement en deux temps. On vous propose un texte que nous allons lire ensemble en nous tenant debout. Et puis ensuite, nous allons prier. Et puis après que nous ayons prié, on aimerait juste ouvrir un petit moment à l'église si vous souhaitez aussi prier pour Thierry et Rebecca. D'abord peut-être ce texte d'engagement en église. Et je vous invite à vous lever. Nous allons donc lire ce texte à haute voix. C'est un engagement que nous prenons à l'égard de Thierry et Rebecca. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour les dons de Thierry et Rebecca Terra. En ce jour, nous les reconnaissons et les recevons comme un cadeau de ta part. Aide-nous à les entourer avec bienveillance et à intercéder régulièrement en leur faveur. Nous nous engageons à nous mettre au service les uns des autres pour que ta volonté soit faite à Mérin et dans la région. Forme-nous pour ce service et fais la grâce à Thierry et Rebecca de nous y aider chacun pour leur part. Nous nous engageons à encourager et respecter leur service au milieu de nous pour qu'ils puissent l'accomplir dans la joie et la paix, en concertation avec les autres ministères que tu nous accordes. Nous nous engageons à pourvoir à leurs besoins matériels durant le temps de leur service. Nous nous engageons à communiquer avec eux de manière directe et bienveillante. Que ta grâce et ta sagesse soient sur eux et leur famille, pour qu'ils puissent maintenir l'équilibre entre service, repos et renouvellement. Amen.
Tu es Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta grâce. Te remercier de mettre devant nous pour ton Église, pour ta gloire, Thierry et Rebecca. Tu connais les dons de chacun. Nous voulons te les remettre, te demander de les bénir, de les protéger et de leur accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires pour mener à bien leur travail. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.
Seigneur, merci pour Thierry et Rebecca qui sont mes voisins, qui sont mes amis et qui sont aussi mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci parce que le verset que j'ai lu tout à l'heure qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, je le vois quand je côtoie Thierry et Rebecca. Et Seigneur, je te les remets. Merci pour leur cœur pour les enfants, et plus généralement pour autrui. Et je te les remets maintenant, Seigneur, que tu puisses les accompagner sur cette route qui est la leur, que ce soit au sein de notre Église, que ce soit au sein aussi de notre commune. Merci pour leur témoignage. Amen.
Amen.
Seigneur, nous te remettons aujourd'hui Rebecca, Thierry et leurs enfants qui se sont mis à ton service depuis tant d'années. Nous avons le privilège de les avoir à notre service, au service de l'Église depuis une année et nous pouvons qu'être reconnaissants pour ce qu'ils nous apportent. Seigneur, nous te les confions, sûrs que tu continues à les garder, les guider comme tu l'as si bien fait jusqu'à aujourd'hui. Merci parce qu'ils sont remplis de toi, Seigneur. Et ils sont un témoignage vivant dans notre Église, Seigneur, mais aussi au-delà des murs, dans le quartier, dans la commune, et bien au-delà. Ils sont témoins, Seigneur, vivants de ce que tu fais dans les vies de ceux qui se confient en toi. Alors, Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant et confiant que nous te les remettons pour que tu continues à les garder et les conduire sur ce chemin. Amen.
Amen. Nous ouvrons maintenant un temps de prière pour l'Église et je conclurai simplement ce moment.
Oui, Seigneur, que ton esprit continue à les guider. Merci pour tout ce qu'ils ont reçu de ta part. Merci pour tout ce qu'ils ont pu apporter à l'Église. Et nous te confions vraiment leur avenir. Que tu veux qu'ils restent à l'écoute de ton esprit et que tu les guides et que tu leur donnes plein de dons dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur Jésus parce qu'avec cette formation qu'ils ont avec Jeunesse en Mission, avec le service PAC, avec différentes activités, Seigneur, tu les as équipés pour venir chez nous. Alors, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis-les au sein de cette commune. Seigneur, merci pour leur rayonnement. Seigneur, que nous voulons vraiment que tu les bénisses et que tu les gardes, que tu les protèges. Seigneur, vraiment aussi des instants de joie.
Seigneur, je te remercie pour le privilège que j'ai eu de me rencontrer dès qu'ils sont arrivés dans les MOP. J'ai eu le privilège de les avoir comme voisins. Et merci pour toutes les traces de bonheur, d'amour par rapport aux voisins qui n'étaient pas chrétiens, qui ne les connaissaient pas, et encore aujourd'hui, les gens y parlent. Alors je veux les bénir, je veux les dire merci pour le privilège que nous avons de les avoir dans la paroisse. Amen.
Et Seigneur, qu'ils puissent continuer de te servir avec joie, remplis de ta grâce et de ta paix. Nous voulons te remercier pour eux et nous voulons les bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Cher Seigneur, j'aimerais te remercier pour Thierry et Rebecca, te remercier pour les dons que tu leur as donnés, te remercier pour l'appel que tu leur as adressé. Et je te prie, Seigneur, de renouveler les forces et les ressources dont Thierry et Rebecca vont avoir besoin jour après jour. Veille sur eux, protège-les. Veille sur leur santé, leur âme, leur intériorité. Nous te remercions aussi pour Ayana, pour Matteo, pour Lily, pour Noam. Et nous te prions de leur accorder bien des joies au cœur du ministère de leurs parents. En Église, nous te prions de nous faire la grâce de continuer la collaboration que nous avons initiée. Et maintenant, nous vous confions à Dieu et à la parole, sa grâce. Amen.
Vous asseoir.
Merci.
Bon, je vous garde un peu sur scène parce que je crois qu'il faut qu'on apprenne aussi un peu à les connaître. Il y a ceux qui les côtoient souvent et ceux qui les côtoient peut-être moins souvent. Alors, je sais que c'est un exercice que vous aimez peut-être un peu moins parce que vous êtes plutôt discret, vous aimez faire ce service caché mais qui se voit sans que vous soyez forcément présent. Et on avait quelques questions à vous poser, mais est-ce qu'il y a des enfants, vous avez envie de poser des questions? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire une demi-question? Non? Oui? Alors viens, viens.
Quelle est la plus grande phobie?
Tu vas apprendre des trucs, Lily. Hein.
Alors, jusqu'ici, j'aurais jamais dit que j'aurais une peur d'auteur. Mais cet été, on a fait une balade et c'était un petit chemin qui était vraiment... Je me rappelle, je ne sais même pas comment expliquer, mais les grillons étaient accrochés dans le rocher et il n'y avait rien en dessous. Et j'étais là, ok, il faut juste marcher, ne regarde pas en bas. Et après, il y avait un pont qui traversait. Sauf que quand Thierry a commencé à marcher, tout commençait à faire comme ça, j'étais là, bon, ok, j'attends. Non. Alors j'ai réalisé que ce n'est pas trop mon truc. J'arrive à le faire, mais pas plus que ça.
Moi, je ne crois pas avoir de phobie. En tout cas, elles ne se sont jamais manifestées. Peut-être que ça viendra un jour, hein, je découvrirai quelque chose. En essayant d'imaginer un peu voilà, le type de phobie que les gens ont, je dirais peut-être claustrophobique. Enfin, voilà, si vraiment j'étais dans un petit endroit, je veux pas, c'est un truc d'horreur, mais genre dans un cercueil sous terre, bon, imaginer ce genre de choses, ça ne me réjouit pas trop. Mais voilà, j'ai jamais eu une occasion dans ma vie d'expérimenter une phobie. Voilà, j'espère que ça durera.
Merci. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant comme métier? Et puis, deuxième question, quel est votre métier? Est-ce que vous avez appris un métier?
Alors, quand j'étais enfant, je voulais devenir docteur. Et malheureusement, mes notes d'école ne me permettait pas de faire ça. Et après, j'ai appris l'employé de commerce. Parce que mes parents me disaient que... Parce que je voulais être docteur pour aller en mission, surtout en Afrique. Et ils étaient là, bon, vu que docteur ne marche pas, peut-être employé de commerce, ça, c'est un peu passe-partout.
La preuve. Ah
bah. Alors moi, je voulais être une rockstar. Plus précisément guitariste, guitare électrique. Ça m'arrivait assez régulièrement de m'imaginer sur scène en train de faire des solos, voilà. Je n'ai jamais poursuivi tellement ce rêve-là. J'ai fait un peu de musique, mais voilà, c'était vraiment dans mes rêves. J'aurais beaucoup voulu faire ça. Et sinon, alors, très différent ce que j'ai fait en réalité, je suis menuisier de métier. Il y avait 3 générations de menuisiers avant moi dans la famille, du côté de mon papa. Et quand on a été vers la conseillère en orientation, ben je ne savais pas trop quoi faire. Elle m'a dit, ben, pourquoi pas faire menuisier après tout, juste pour suivre la lignée. Donc voilà, j'ai fait ça. Je n'ai pas beaucoup pratiqué la menuiserie. J'ai assez vite fait d'autres choses dans le bâtiment. Et puis après, je suis parti à Genève sans mission. Mais c'est mon seul métier que j'ai appris.
Et dans votre métier actuel, maintenant, qu'est-ce que vous préférez faire dans ce travail que vous accomplissez pour l'Église?
Alors pour moi, c'est clairement le contact avec les enfants et le fait que ce travail que je fais me permet de faire plein de différentes choses. C'est pas chaque semaine la même chose. J'aime pouvoir faire des trucs avec mes mains, de créer quelque chose, mais aussi après faire le catéchisme, faire l'école de dimanche, en gros d'être entouré avec différentes personnes et pas toujours les mêmes.
Moi, ça va un peu dans le même sens, mais au niveau des adultes, donc les relations, j'essayais de réfléchir aux questions qu'on allait nous poser. Et je m'étais dit, peut-être qu'ils vont nous demander qu'est-ce qu'on a préféré. Donc voilà. Et en réfléchissant, je m'étais dit, ben, c'est le cours alpha qu'on a fait une fois, et puis le week-end d'église. Et le point commun de ces deux choses, c'est les relations. Discuter avec les gens, les voir avancer dans leur marche avec Dieu, apprendre à vous connaître, vous. Voilà, ça c'est vraiment toujours chouette de mieux apprendre à connaître les gens avec qui on chemine en église.
Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir lire une des questions? Eh bien.
Quel est votre jeu préféré? Es-tu mauvais perdant?
Oh là là. Alors c'est compliqué, hein, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup, beaucoup jouer aux jeux de société. Si je peux jouer une fois par semaine, je suis content. Parfois, c'est plus. Rien qu'hier, on a fait deux gros jeux avec Mathéo. Donc, je ne pense pas que j'ai un jeu favori, mais j'aime les jeux voilà, stratégiques qui prennent du temps, avec des figurines, voilà, ce genre de jeu. Les jeux qui répulsent certaines personnes. Hein. Ceux qui disent, s'il y a plus que 5 minutes de règles, je ne suis plus là, vous ne pourrez pas jouer avec moi. Et est-ce que je suis mauvais perdant? Qu'est-ce que tu penses, Mathéo? Dis la vérité. Voilà. Il n'ose pas. Je suis un peu mauvais perdant, mais j'ai appris à ne plus trop le montrer. On va dire ça comme ça.
Alors pour moi, c'est plus difficile à dire quel est mon jeu préféré parce que de la base, je ne suis pas trop jeu. D'être mariée avec mon mari, ben j'ai appris à faire des jeux et on fait ça régulièrement en tant que famille. Un jeu que j'aime, que j'apprécie, c'est le Ticket to Ride. C'est déjà quoi en français? L'aventurier du rail. Et ça, j'aime bien parce qu'il faut construire avec des trains, il faut accomplir des missions. C'est pas trop long. Pour moi, ça va très bien. Pas trop stratégique parce que sinon, ça ne va pas pour moi. Mauvais perdant. Oui, plutôt. Quand je joue, en fait, je suis là, bon, je fais un effort de jouer. Je pourrais aussi au moins gagner, quoi. C'est... Mais voilà, comme Thierry, je suis adulte, il faut essayer de ne pas trop montrer, quoi.
Quel est votre meilleur souvenir d'enfance?
Tu sais, j'allais dire, oulala, parce que je suis très mauvais avec ce genre de choses, mais non, j'en ai un particulier, qui est peut-être lié d'ailleurs avec ce que j'ai dit avant, le métier que je voulais faire. Un souvenir très fort que j'ai, c'est quand j'ai reçu un lecteur de compact disque, de CD, pour ceux qui savent encore ce que c'est, avec un double CD en plus, Pionnier, voilà, ça c'était certainement, je ne sais pas si c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu, en tout cas c'est celui dont je me souviens le plus.
Pour moi, c'est... J'ai beaucoup chanté quand j'étais enfant. J'aime beaucoup chanter encore maintenant. Et en fait, des moments avec mon papa. Il prenait sa guitare et moi, j'étais sur le piano et on chantait ensemble. Et on a fait ça régulièrement et ça, c'est une de mes souvenirs préférés de mon enfance.
Et puis, une dernière question.
Si vous devriez être enseigner seulement trois choses à ton enfant, quelles seraient-elles?
Ah oui, c'est ça. Il faut qu'on discute entre parents d'abord, si on est d'accord. On est monté d'un niveau au niveau des questions quand même. Hein. On dit déjà une, puis après t'en dis une, ça. J'essaie de répondre, j'essaie de ne pas être trop bateau, mais en même temps, vous le savez, il y a des choses essentielles, et il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup loin. Je pense apprendre à pardonner, ça fait partie des choses essentielles de la vie. Ce n'est jamais facile, on essaye de le faire en famille, certains le font plus vite que d'autres, Rebecca est plus rapide que moi par exemple. Mais voilà, demander pardon quand on a fait une erreur, et puis accorder son pardon, ça fait partie des bases qui serviront toute la vie.
Non, c'était trois, mais écoute, je ne veux pas vous faire passer un mauvais moment quand même. Merci. Est-ce que l'Église a une question? Pas de question. En fait, ils vous connaissent tous bien, c'est pour ça. Ah.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
Et quelle version? Parce qu'avec l'âge, nos histoires évoluent un peu. Non, c'est surtout, ouais, c'est ça. La rencontre, ça va. Tu veux raconter? On s'est rencontrés à Jeunesse en Mission, Burtigny. Burtigny, c'est pas très loin d'ici. Hein. Vous allez à Rolgland, vous montez un petit peu sur le Jura. Et puis voilà, c'est un tout petit village juste là, avec un assez grand centre de Jeunesse en Mission, un ancien orphelinat. Et puis on était les deux là en même temps. Hein. Moi, ça faisait déjà 2-3 ans que j'y étais. J'ai fait une école de formation de disciples là-bas. Et puis en 2017, Rebecca est... 2007, oui, c'est vrai. Rebecca est arrivée, elle a fait une école. On ne s'est pas trop parlé à ce moment-là. Puis après, elle est revenue pour aussi être employée comme volontaire sur le centre. Et puis, on avait nos chambres l'une à côté de l'autre. On était dans le même petit appartement là avec plusieurs célibataires. Et puis voilà, naturellement, on a appris à se connaître. On était amis d'abord. On prenait souvent notre petit déj ensemble. On avait bien le temps de discuter. Et puis voilà, une chose en amenant une autre, on a fini par s'engager l'un envers l'autre et à se marier.
Ça va. Merci. Vous pouvez aller vous rasseoir. Bravo. On va passer à un temps d'offrande avec un chant. Et puis, en attendant, comme ça, on peut afficher le QR code pour ceux qui veulent faire l'offrande par Twint. On va passer avec les petits paniers qui sont... Il faut que j'aille... Merci. Et puis, moi, juste une petite anecdote, parce que je trouvais que c'était... c'est toujours très beau quand on envoie un email à Thierry et Rebecca pour le demander, notamment pour l'organisation de ce culte, si... il voulait que ça soit Philippe ou quelqu'un d'autre qui vienne prêcher. Et puis on reçoit un mail de Thierry qui dit moi ça m'est égal, Rebecca qu'est-ce que t'en penses? Et on se dit mais ils sont pas dans la même pièce, ils sont pas dans le même appartement, parce qu'ils se parlent par email. Et j'ai trouvé ça génial, un mode de fonctionnement que je trouve ça très professionnel, mais qui est intéressant. Voilà pour la petite histoire que le conseil peut avoir avec eux. Ce temps d'offrande, c'est un temps d'offrande libre. C'est uniquement par vos dons que notre église fonctionne. On n'est pas financé par un organisme ou quoi que ce soit. C'est uniquement les dons des membres, des amis de l'église. Et c'est vraiment la liberté de chacun selon votre cœur. Pendant ce temps d'offrande, on va chanter un chant et je laisse maintenant la place au groupe Louange.
Voilà, nous voulons chanter pour ce dernier chant. Gloire à l'Éternel. Je ne vis que pour lui.
vais prier pour l'offrande. Dieu Père, nous te remercions pour cette offrande, pour les dons de chacun qui servent à ton Église, que tu donnes la sagesse à ceux qui s'occupent de répartir cet argent, de l'utiliser, qu'il soit pour ta gloire. Par Jésus-Christ, amen. Un temps d'annonce, et j'invite le président du conseil municipal à me rejoindre pour quelques mots de nos autorités.
Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Pasteur, Mesdames et Messieurs les membres de l'Église évangélique de Mérin, Mesdames et Messieurs, chère Rebecca, cher Thierry, au nom du Conseil municipal de Mérin, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'Église évangélique de Mérin pour son aimable invitation au culte d'installation. C'est un honneur d'avoir pu partager ce moment de célébration avec votre communauté. Votre accueil témoigne de l'esprit d'ouverture et de fraternité qui caractérise votre Église et contribue au vivre ensemble dans notre commune. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très beau dimanche. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. J'invite Claude à me rejoindre pour la suite. En attendant, je cite simplement les événements de cette semaine. Donc, nous avons l'atelier biblique mardi soir, le caté groupe de jeunes vendredi soir, et puis vous rappelez le colloque qui aura lieu vendredi 3 octobre. Vous allez recevoir tout prochainement l'invitation qui va être distribuée début de semaine.
Voilà, on arrive à un temps avec plaisir qu'on va pouvoir rejoindre Rebecca et Thierry. Et ce qu'on va vous proposer, c'est de prendre un apéritif dehors. Alors, il y a eu quelques gouttes de pluie, on hésitait, mais du coup, ça a l'air de se calmer. Donc, on vous propose l'apéritif dehors. Je vous demanderai de sortir assez rapidement, mais avant d'empiler les chaises et de les mettre sur le côté, de façon à pouvoir après mettre les tables ici pour le repas. Donc le repas était sur invitation, mais était sur inscription, pardon. Mais si vous avez vraiment envie de rester et puis que on se débrouille, le repas est à 10 francs. Et puis c'est volontiers, on mettra une petite boîte là dehors. Alors donc empilez les chaises, mettez-les sur les côtés. Et s'il y a quelques celui de Gaillard pour mettre les tables avec moi et puis aider à mettre en place. Ce sera volontiers que... C'est aussi celui de Gaillard. Merci pour la remarque. Oui. Ça va très bien aussi. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, l'apéritif dehors et le repas ici. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, mais que vraiment ça vous démange de rester, c'est volontiers aussi que vous êtes accueillis. Merci.
Merci. Encore la bénédiction. Et juste rappeler que, bien sûr, que c'est que les adultes qui feront les enfants, c'est gratuit. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, tous nos invités, ceux qui vraiment ont été invités et qui sont au repas, c'est gratuit pour vous parce qu'on vous a invité, y compris pour Rebecca, Thierry et famille élargie.
Je vous invite à vous lever pour un mot d'emploi et de bénédiction. Que notre Dieu soit votre force, votre joie, qu'il vous accompagne, vous renouvelle, vous porte pendant la semaine et puis vous trouve aussi près de lui, que lui est près de vous. Que la fête soit belle, mettez-y du cœur, de la joie. On est très heureux de faire un bout de route maintenant encore ensemble pendant cette journée. Très bon dimanche !